Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui suivent la loi du Seigneur. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le 17e dimanche après la Pentecôte. Et nous devons dire qu'il y a bien plus de 1000 ans que toutes les générations de catholiques, que des générations entières de catholiques entendent année après année les paroles de l'Écriture que l'Église leur proclame. Mais combien en ont véritablement compris le sens, c'est-à-dire combien ont fait leur ces paroles qui peuvent sauver nos âmes. C'est notoire puisque c'est notre Seigneur qui nous l'a enseigné et l'Église l'affirme dans la liturgie. Il y a un refroidissement de la charité. Dans ce dernier siècle, les modernistes, les néo-modernistes ont voulu augmenter le nombre de lectures des Saintes Écritures, de telle sorte qu'ils ont concocté 3 années, de telle sorte que ce soit pendant 3 ans plusieurs textes qui viennent, et ensuite les mêmes textes reviennent, mais tous les 3 ans, en ayant découvert, soi-disant, que ça faisait trop longtemps qu'il n'y avait qu'une seule série de textes. Peut-on penser que tous ces gens écoutent plus la parole de Dieu que nos ancêtres le faisaient? La réponse est bien évidemment non. Si chaque année, depuis plus de 1000 ans, depuis peut-être 1500 ans, l'Église nous fait proclamer et nous fait méditer les mêmes textes, c'est parce que ces textes sont fondamentaux, et si nous pouvions bien connaître les textes de l'année liturgique, des dimanches de l'année liturgique, et si nous pouvions les faire nôtres, et si nous pouvions y conformer notre volonté et notre cœur, alors, mes très chers frères, véritablement, nous aurions compris ce que veut dire l'Église, et tout le reste de notre vie serait occupé à confirmer cette compréhension, à l'approfondir et à la mettre en œuvre. Il y a donc un refroidissement de la charité, ce qui fait que aujourd'hui, moins que jamais, il faut changer quoi que ce soit à la liturgie, au texte, et garder ce que nos pères ont pratiqué pendant des milliers d'années, pendant plus de 1000 ans, de peur que justement la nouveauté ne nous fasse dérailler. Je pense malheureusement que c'est un petit peu ce qui est arrivé. Les 2 siècles qui nous ont précédés ont vu, les 2 ou 3 siècles qui nous ont précédés ont vu développer l'idée que l'amour de Dieu n'est pas un précepte absolument obligatoire et indispensable pour le chrétien. La raison en est que si l'on fait de la charité l'aune à laquelle on juge les chrétiens, il n'y a en ces derniers temps quasiment plus aucun chrétien. Donc plutôt que de former des prêtres pour exciter les chrétiens à l'amour de Dieu, on a plutôt minimisé le primat de l'amour de Dieu en disant que l'essentiel c'était de garder Dieu dans l'horizon de sa vie, mais que dans la mesure où l'on était honnête et où l'on faisait un certain nombre de choses qui ne vont pas contre la religion, le bon Dieu n'en demande pas tant et c'est bien suffisant. Que reste-t-il, mes très chers frères, dans la religion chrétienne, si la nécessité de l'amour de Dieu disparaît? Je vous le dirai, mes très chers frères, il reste quelque chose. On pourrait penser qu'il ne reste plus rien et que nous devenons païens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui reste? Eh bien voilà, l'idée que l'essentiel de l'effort des chrétiens doit se porter sur l'avènement d'une chrétienté plus parfaite, enfin chrétienne, plus chrétienne, avec un Christ plus roi que jamais, de telle sorte que l'on en vienne même à penser que le Christ n'a jamais vraiment régné, et au moment où l'on découvre que le Christ règne, on dit que c'est surtout la Sainte Vierge qui va régner, puisque le Christ a fait son temps. Ce sont des choses que l'on entend, ne nous voilons pas la face. Que reste-t-il lorsque la charité fait défaut? Eh bien, mes très chers frères, il reste la militance, il reste ce qui peut donner l'impression d'une charité et qui ne l'est pas, qui n'est que ce que l'on appelle de la niaque, c'est-à-dire le désir de vaincre, le désir de gagner, le désir de casser la figure à son prochain, pour les meilleures raisons du monde, évidemment. C'est pour cela, mes très chers frères, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons comprendre ce que veut nous enseigner l'Église, ce qu'elle nous enseigne. Nous avons plusieurs choses à voir. Premièrement, nous allons voir que l'épreuve du chrétien, c'est quand on lui demande de définir quel est le plus grand commandement. Et on ne peut mentir dans les faits. Quel est le Dieu que nous aimons? C'est la grande question que nous avons à nous poser. Ensuite, nous verrons comment saint Paul nous enseigne pour organiser l'amour fraternel, le mettre en pratique. Sa mise en œuvre n'est autre que la mise en œuvre de la dignité du chrétien, un concept très intéressant que nous allons essayer de voir. Et enfin, nous terminerons en voyant que la bonne attitude, en voyant que la bonne attitude consiste, disons, la bonne attitude du chrétien consiste dans la préservation du lien, de l'unité de l'esprit par le lien de la charité, c'est-à-dire par l'extinction de l'amour propre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dans l'évangile d'aujourd'hui, voici ce qui se passe. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui demanda pour le tenter, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et notre Seigneur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont contenus la loi et les prophètes. » Bien sûr, dans le contexte historique de cet évangile, les pharisiens, voyant que notre Seigneur avait terrassé les Sadducéens à propos du mariage et de la résurrection, s'approchent de lui pour le tenter. Il lui pose une question et plusieurs pères nous disent que c'était par malice, puisqu'ils voulaient voir si notre Seigneur allait modifier quelque chose dans la loi de Dieu à propos du premier commandement. Mais notre Seigneur le confirme et tout le monde est tellement d'accord avec lui que personne ne dit rien. Et dans un autre évangile, l'évangile selon saint Marc, on voit que dans un autre épisode, notre Seigneur pose lui-même la question à un docteur de la loi qui lui répond que le plus grand commandement qu'il lit dans la loi, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et notre Seigneur lui dit « Tu es bien heureux car tu as dit vrai ». Donc tout le monde est d'accord, s'il s'agit de malice de la part des pharisiens, il ne s'agit pas d'une mauvaise doctrine. Tout le monde est d'accord avec notre Seigneur, le plus grand et le plus essentiel commandement consiste dans l'amour de Dieu qui se vérifie par l'amour du prochain. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de dire des choses sur la malice des pharisiens, c'est plutôt de voir qu'il y a une épreuve à laquelle nous devons nous soumettre, qui est la suivante, que l'on nous pose la question, chrétien, quel est le plus grand commandement de la loi ? Le docteur de la loi connaissait déjà la réponse, et il avait raison, comme nous avons dit. Cette question se pose donc à tout chrétien, puisque le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et de la réponse dépend son salut éternel. On pourrait dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, aux chrétiens, quel est le plus grand commandement de la loi ? Le plus grand commandement de la loi, répondrait-on, c'est de défendre la vraie religion. C'est de se conserver en état de grâce. C'est de venger l'honneur de Dieu. Il y a quelque chose de vrai dans ces réponses, mais ce ne sont pas les bonnes réponses. Vous voyez, quand on vous dit combien font 2 plus 2, et si vous répondez 5, 5 n'est pas une mauvaise réponse en soi, puisque si l'on posait la question combien font 3 plus 2, on répondrait 5 et on aurait raison. Mais si on dit 5 alors qu'on pose la question 2 plus 2, on se trompe. Ce n'est pas une réponse qui est intrinsèquement fausse, comme si on disait combien font 2 plus 2, une pomme. C'est complètement faux. Hein. 2 plus 2 font 4, 3 plus 2 font 5, le plus grand des commandements est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Tous les autres sont des applications de la loi et des prophètes, toutes les autres réponses que l'on pourrait donner. Mais il faut répondre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Voyez ? Et aujourd'hui, alors vous allez dire, vous enfoncez des portes ouvertes. Moins que vous pouvez l'imaginer, mes très chers frères, moins que vous pouvez l'imaginer, puisque depuis Don Sarda il Salvani, on sait que la charité est un grand refrain libéral, et que plus on parle de charité, plus il y a de chances que nous soyons libéraux. Alors évidemment, malheureusement, les libéraux, ce qu'on désigne par ce terme, invoquent beaucoup la charité pour faire passer toutes sortes de faussetés. C'est vrai, mais il n'empêche que, quel est le plus grand commandement de la loi ? La réponse est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il y a une grande loi dans la vie chrétienne, mes très chers frères. Il y a une très grande loi, c'est que quiconque répond droitement à cette question doit ajouter « et ton prochain comme toi-même ». de telle sorte que se vérifie la qualité de l'amour et, si j'ose dire, la qualité du Dieu qui est dit être aimé. Tout le monde a un Dieu qu'on aime, qu'il aime par-dessus tout. Les gens qui aiment le sport par-dessus tout, c'est en quelque sorte leur Dieu. Les gens qui aiment, que sais-je, la boisson, la nourriture, la musique, c'est leur Dieu, ils l'aiment par-dessus tout. Donc lorsque le chrétien dit « il faut aimer Dieu par-dessus tout », il a dit, évidemment, il a donné la bonne réponse, mais on n'est pas encore sorti d'affaire. Parce que si vous aimez, je ne sais pas moi, le football, le basket ou d'autres sports, vous dites « j'aime le sport par-dessus tout ». Oui, et comment et la suite, bah, c'est tout. Le chrétien, lorsqu'on lui dit « aimer, quel est le plus grand commandement ?» et qu'il dit « il faut aimer Dieu, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. par-dessus toute chose », et il rajoute « et ton prochain comme toi-même ». C'est une vérification. Celui qui est passionné de que sais-je, encore une fois, de boisson, de sport, c'est pas pour jeter la pierre, hein, c'est pour dire, prendre des exemples. Celui-là n'a rien à rajouter. Il aime le sport par-dessus tout, un point c'est tout. On ne peut pas lui dire « oui, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait vraiment le sport si vous n'aimez pas les joueurs, si vous n'êtes pas en communion avec les footballeurs ». Les footballeurs, je ne les ai jamais rencontrés, je parie sur eux, je les aime, je les regarde à la télévision, je paye mon billet pour aller au stade. Je ne vais pas avoir, je vais pas dire le vrai supporter de football, c'est quelqu'un qui a une relation d'amitié avec les footballeurs. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils sont dans leur monde et moi je suis dans le monde des supporters. Donc, j'aime le sport par-dessus tout, un point c'est tout. J'aime Dieu par-dessus tout et cela se vérifie par l'amour du prochain. Et c'est beaucoup moins évident qu'on pourrait l'imaginer que d'aimer Dieu par-dessus tout, parce que l'on peut croire aimer Dieu par-dessus tout, alors que l'on n'aime pas le Dieu qui exige l'amour du prochain comme vérification de l'amour qu'on lui porte. Si mon amour pour Dieu n'est pas vérifié par l'amour des frères, et du prochain en général, alors il se peut très bien que le Dieu que j'adore soit certes mon Dieu, mais ce ne soit pas le Seigneur Sabaoth. Le Seigneur, le Dieu vivant. Il y a une autre grande loi dans la vie chrétienne, mes très chers frères, c'est, comme dit notre Père saint Augustin, que en nous règne ou bien la charité, ou bien la concupiscence, l'amour de Dieu, ou bien l'amour de soi-même. Et comme dit notre Seigneur, nul ne peut servir deux maîtres. L'amour de Dieu, l'amour de nous-mêmes, l'amour du sport, l'amour de la nourriture, l'amour de la boisson, l'amour de toutes sortes d'autres choses, sont des maîtres. Personne qui aime vraiment quelque chose ne peut prétendre qu'il n'est pas en quelque sorte comme dominé par cet amour. Et on a beau dire « j'aime la boisson, mais j'aime aussi autre chose », il se trouve que, spécialement dans cet exemple, il se trouve que si j'aime beaucoup la boisson, si la boisson me domine, et d'une certaine manière, je n'aurai pas beaucoup de loisir de faire autre chose. J'aime la boisson, et puis j'aime aussi, je ne sais pas moi, la course à pied ou la course automobile. C'est difficile de tenir le volant si vous aimez la boisson en même temps. Vous allez avoir un accident, vous allez devenir handicapé, vous n'allez plus pouvoir servir ces deux maîtres. Vous voyez, vous aimez la boisson, puis vous aimez aussi faire des marathons. Mais si vous buvez vraiment beaucoup, vous n'allez pas pouvoir courir très longtemps. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en nous, il y a ou bien la charité qui domine, ou bien la concupiscence. Certes, quand il y a la charité, il y a toujours le vieil homme qui est là, pour nous tenter et pour nous faire faire des choses qui sont contraires aux aspirations de l'esprit, bien entendu. Lorsque le chrétien est rempli de concupiscence, ça ne signifie pas qu'il déteste Dieu non plus. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Néanmoins, d'une façon globale et de la façon dont nous juge notre prochain, les anges et le bon Dieu, il faut bien que nous soyons caractérisés par la domination de la charité ou la domination de la concupiscence. Le juste tombe 7 fois par jour et il se relève. La charité n'exclut pas malheureusement que nous commettions quelques péchés, mais il faut dire que ces péchés sont vaincus et, disons, et deviennent de moins en moins forts par la charité. Il se trouve que si nous aimons vaguement Dieu, mais que nous tombons constamment par la concupiscence dans les choses qui sont contraires à la loi de Dieu, alors il se trouve que nous avons une velléité de bien faire, mais nous sommes quand même majoritairement caractérisés par la concupiscence. Il y a donc en nous ou bien la charité qui règne, ou bien la concupiscence qui règne, ou bien l'amour de Dieu, qui se vérifie par l'amour du prochain, ou bien l'amour de soi, qui peut éventuellement avoir certaines formes d'amitié pour le prochain, mais qui n'est pas la charité appliquée envers le prochain. J'aime ceux qui m'aiment, j'aime mes amis, et quant à mes ennemis, eh bien, ils n'ont qu'à bien se tenir. Un païen est tout à fait capable de dire cela, et même c'est même le discours d'un païen. Celui qui aime ses ennemis et qui aime ses amis, pour l'amour de Dieu, sans haïr ses ennemis et sans vouer à ses amis un amour qui est un amour charnel et temporel, alors celui-là véritablement pratique la charité. En lui règne la charité. De nos jours, mes très chers frères, et c'est très important de le savoir, de nos jours, l'amour de Dieu est souvent confondu avec l'amour de soi-même. C'est ce qu'implique, c'est l'implication de l'orgueil dans la militance. On s'efforce de faire, d'utiliser toutes les ressources, tous ses biens, toute son intelligence, tout son argent, tous ses talents pour Dieu. Et quand on est contredit, on s'offusque. Lorsque l'on ne nous croit pas, on a l'impression d'être face à un athée. Lorsque l'on nous oppose d'autres points de vue au sein du catholicisme, on se pique d'être contredit et on pique en retour. On attaque les hérétiques, entre guillemets, avec toute l'amertume d'un amour-propre froissé. Ça, c'est très important. On peut faire les actes extérieurs de la religion. On peut avoir les actes extérieurs et matériels, en quelque sorte, de l'amour pour Dieu. Mais si cet amour pour Dieu n'est que le vêtement dont se revêt la concupiscence, c'est-à-dire l'amour de nous-mêmes, nous aurons bon faire tous les efforts qu'ont pu faire les pères, les théologiens, que font les prêtres, les évêques, ce ne sera jamais nous-mêmes que nous défendons, cherchons, puisque, d'une certaine manière, se vérifiera lors de l'épreuve que, en réalité, nous sommes animés par l'amour-propre et que nous ne supportons pas la contradiction parce que qui nous contredit, contredit Dieu dans notre esprit. Vous voyez, mes très chers frères, parallèlement, on loue comme des héros et comme des amis de Dieu, des amis du Christ roi, ceux qui nous citent, ceux qui nous flattent. Il y a quelques années, vous l'avez sans doute su, il y avait un auteur, tout ce qu'il y a de plus abominable, je ne pense même pas qu'il soit chrétien, qui prétend que Moïse est un plagiaire des mythes sumériens, qui attaque violemment la religion catholique, la morale catholique plus particulièrement. Bref, tout le temps. C'est une personne qui pond des livres à n'en plus finir, et qui blasphème à pleine gueule, et qui, par hasard, dans une sorte de délire eschatologico-économico, je ne sais pas trop quoi, citait un livre écrit par des catholiques traditionnels, des sédévacantistes, que sais-je. Et alors, il se trouve que, alors que cet auteur est un ennemi du Christ, les gens qui ont écrit ce livre, qui sont en même temps éditeurs, se sont mis à vendre son livre, sinon ses livres, c'est vrai, mais vendre son livre, sous prétexte que c'était un bon livre, évidemment, il les citait. Mais il les citait parmi d'autres, et parmi une quantité d'hérétiques. Est-ce là faire l'œuvre de Dieu ? Vous voyez, quand un militant est devant le Saint-Sacrement et qu'il dit « Mon Dieu, je vous aime », il pourrait tout aussi bien être devant un miroir et dire « Mon Dieu, je vous aime ». Il n'aime pas le Dieu qui lui dit, comme nous allons le voir, « Aime-moi selon l'ordre ». Il s'aime lui-même dans ce qu'il fait. Et ce n'est pas étonnant que la caractéristique de la militance, c'est un profond mépris pour la doctrine traditionnelle et la pratique, évidemment, de la charité. La charité, si vous parlez de charité, vous êtes libéral. Si vous pratiquez la charité d'une façon orthodoxe, vous êtes soupçonné de libéralisme parce que vous n'êtes pas dans le vrai combat, et comme disaient certains, n'ont pas toujours été charitables, mais évidemment, le combat contre le libéralisme implique certaines entorses à la charité. Je crois que ces propositions sont fausses. Pourquoi ? Parce que Dieu nous éprouve, le pharisien tente notre Seigneur, mais Dieu nous éprouve en nous demandant la définition du plus grand commandement. Et si nous répondons droitement, alors nous sommes nécessairement pris dans un processus de diminution de l'amour-propre, d'extinction de l'amour-propre, si tant est qu'il puisse être éteint. La mesure de l'amour du prochain, nous dit notre Seigneur, c'est l'amour que l'on se porte à soi-même, sachant que cet amour que l'on se porte à soi-même est un amour qui exclut pour soi-même tout ce qui peut nous priver de la vie éternelle. Alors je sais bien qu'il y a cet horrible sophisme qui consiste à dire vouloir et s'aimer soi-même, c'est vouloir la vie éternelle, donc aimer son prochain comme soi-même, c'est casser la figure à son prochain pour lui faire comprendre que ses opinions le détournent de la vie éternelle. C'est un sophisme. En réalité, il y a quelque chose de vrai, évidemment, mais c'est un sophisme. Si je m'aime comme je dois m'aimer en Dieu, je dois haïr en moi tout ce qui m'empêche d'accéder à Dieu, c'est-à-dire moi-même, ou l'amour-propre, la concupiscence, le vieil homme. Aimer Dieu quand l'on combat le vieil homme, c'est aimer Dieu comme son vrai soi-même. C'est tout ordonner à Dieu dans sa vie, en vue de la vie éternelle. Donc aimer les hommes, aimer le prochain, c'est aimer le prochain de telle sorte qu'il puisse, s'il ne l'est pas, devenir chrétien, et aimer ses frères, son prochain, les prochains en tant que frères, c'est aimer les frères qui sont chrétiens et avec lesquels nous passerons l'éternité. C'est pour cela que saint Paul, c'est le deuxième point, saint Paul dit dans l'Épître, « Mes frères, je vous conjure, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. » Cette vocation, nous dit un auteur, c'est la vocation générale au christianisme, lorsque nous sommes appelés des ténèbres à l'admirable lumière du Fils de Dieu. Mais c'est aussi, nous dit-il, elle doit aussi s'appliquer à chaque vocation particulière dont il faut que chacun s'acquitte dignement. La dignité est fonction, mes très chers frères, de la manière dont la Providence a fait de nous les imitateurs du Christ, ou les vicaires du Christ, les lieutenants du Christ. Il m'a fait lieutenant du Christ pour une famille. Je suis père de famille. Ma dignité consiste à être un bon père de famille, un pieux père de famille, un saint père de famille. La Providence, je suis une femme, a voulu me faire de moi une mère de famille. Je représente donc Dieu, d'une certaine manière, de façon polarisée, car je représente l'Église vis-à-vis de mon mari, quoique vis-à-vis de mes enfants, j'ai une autorité divine. Voyez, je suis un laïc, j'ai à m'occuper de façon honnête dans telle ou telle profession, je dois être un ambassadeur, une lumière du Christ, une lumière vivante, devant les hommes, afin que les hommes, voyant mes bonnes œuvres, louent Dieu au jour de sa visitation. Et ainsi de suite. Même chose pour les prêtres, les évêques, etc., bien entendu, les religieux. La dignité d'un laïc n'est pas la dignité d'un clerc. La dignité d'un homme n'est pas la dignité d'une femme. La dignité d'un enfant n'est pas la dignité d'un adulte, etc. Nous avons tous notre degré de dignité, ça c'est certain. Il n'y a aucun chrétien qui n'ait une dignité, quelque petit soit-il. Mais nous devons vivre conformément à la dignité de la vocation à laquelle nous avons été appelés. C'est pour cela que saint Paul dit, je le répète, « Je vous conjure de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. » Se comporter d'une façon non digne, pour ne pas dire indigne, c'est, par exemple, usurper les fonctions d'autrui. C'est bien sûr ne pas faire ce que je dois faire. Je suis un père de famille, je suis un prêtre, etc. Je me détourne de mes devoirs pour faire autre chose, pour n'en faire qu'à ma tête. Je me comporte d'une façon indigne, c'est vrai. Mais C'est un peu dur, disons, de dire que quand on usurpe, on se comporte d'une façon indigne. Parce qu'on n'a pas, subjectivement, la personne qui se comporte de cette façon-là n'a pas l'impression de se comporter d'une façon indigne. Au contraire, je suis un laïc et je fais la fonction d'un clerc, je fais la fonction d'un évêque, j'enseigne, je prêche, je diffuse des choses du magistère, que sais-je. J'ai l'impression, au contraire, d'être très digne, d'augmenter ma dignité. C'est exactement comme le quidam dans la rue qui met un pull bleu, un pantalon et qui accroche un revolver à sa ceinture, qui met une casquette sur sa tête. Alors, évidemment, il a la dignité d'un policier. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il va être arrêté, mis en prison. Et pourquoi? Usurpation de fonction, usurpation d'identité, usurpation de dignité. Vous voyez, c'est même vrai pour les mondains. Alors, a fortiori, dans la religion. Je me demande même pourquoi est-ce que nous le disons. Pourtant, il faut le dire, parce que ce sont des choses, en quelque sorte, dans lesquelles les nouveaux convertis baignent dès leur naissance, et ils ont l'impression que qu'il est normal. Ils ont l'impression, sous prétexte de quelques citations tronquées, ou plus ou moins indiscrètes, que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc, il se trouve que tout le monde s'imagine qu'il doit faire l'office de tout le monde. L'Église est une société parfaite, je crois qu'on le répète assez souvent de nos jours. L'Église est une société parfaite, elle devient imparfaite si tout s'accomplit, si tout s'occupe de tout. C'est la société moderne, c'est la société ultra-démocratique qui n'existera jamais parce qu'une société ne veut pas être absolument démocratique. Vous voyez, c'est la société de la transparence absolue. Tout le monde s'occupe de tout, c'est la démocratie participative, c'est l'Église participative. Voilà, j'ai un blog, j'ai un site, que sais-je, je déclare qui est un bon clerc, qui est un mauvais clerc. Je déclare quelle est la bonne doctrine, quelle est la mauvaise doctrine dans des décisions qui sont très délicates et à la première occasion, j'implique que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des hérétiques, alors que en réalité, je me comporte d'une façon, disons-le, non digne, c'est-à-dire indigne. L'Église, mes très chers frères, est une société ordonnée. C'est un corps dont la vie, dont tous les membres sont ordonnés et dont la vie est la charité. Bien sûr qu'il faut des organes différents dans le corps, il faut des membres, des organes différents, bien entendu. Mais il y a des membres différents, il y a une seule vie. Il y a des fonctions différentes dans l'Église, il n'y a qu'une seule charité, c'est Dieu répandu en tous. C'est pour cela que saint Paul continue. Il dit, je vous conjure donc de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé, en toute humilité. On n'est point humble, dit un auteur, on ne l'est pas en toute chose, au moins par la disposition du cœur. Le militant, la plupart du temps, quand on va lui faire des compliments pour un blog bien fourni, pour des articles intéressants, pour des commentaires d'actu, hein, comme on dit, très pertinents, il va dire, oh, vous savez. Mon Dieu, grâce, enfin, pas trop quand même, parce que c'est quand même pas le bon Dieu qui fait le blog, c'est moi. Mais enfin, disons, d'une certaine manière, vous savez, je ne suis qu'un serviteur inutile pour l'utilité commune. Enfin bon, bref, bon, mettons, soyons larges, mettons qu'il y ait une certaine humilité. C'est exactement l'humilité, on pourrait prendre des exemples qui seraient un peu choquants. On pourrait dire, en prison, quelqu'un qui dit, ah ben, vraiment, vous êtes un champion, vous avez massacré 15 personnes à main nue. Oh, vous savez, j'aurais pu faire mieux. Oui, ah bah oui, l'assassin qui a tué 15 personnes à main nue, bah c'est sûr qu'il est humble. Il dit oui, si je m'étais mieux pris, si j'avais eu le temps d'avoir un couteau, d'avoir un fusil, bon, c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. Certes, je ne suis qu'un humble assassin. Quelle humilité dedans! Enfin, vous allez dire, oui, c'est pas une personne qui se glorifie, mais est-ce que c'est vraiment une personne humble? On ne peut être humble que quand on est dans l'ordre. Vous voyez, l'humilité ne peut être vraie que quand l'homme vit conformément à l'ordre que Dieu a instauré. Vous voyez, imaginez un prêtre, bon, on ne va pas non plus parler simplement des laïcs, un prêtre qui aurait toute une ribambelle d'enfants. Et on dit, ah, vous avez de très beaux enfants. Oh, oui, vous savez, c'est peut-être un bon père de famille, ses enfants sont peut-être très beaux et en bonne santé, mais enfin, on est quand même un petit peu à côté de la plaque. Il n'a pas à être humble parce qu'il élève bien ses enfants. Il a à avoir quand même honte d'être dans une situation qui est indigne de sa dignité. Vous allez dire, et alors un bon père de famille. C'est une autre fonction, c'est une autre vocation au sein de l'Église. Chacun fait ce que le bon Dieu lui demande, et il faut savoir que si l'un fait une chose parce que Dieu lui demande, et qu'un autre fait la même chose alors que Dieu ne la lui demande pas, l'un fera le bien, l'autre fera le mal. Je ne vois pas pourquoi un prêtre qui aurait une femme et enfant serait dans un état d'indignité, et un laïc qui s'occuperait des choses cléricales ne serait pas dans un état d'indignité. Expliquez-moi pourquoi ça ne serait pas vrai, à moins que le prêtre soit inférieur au laïc, ce qui se discute dans certains milieux, effectivement. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous ne pouvons être humbles, c'est-à-dire nous ne pouvons véritablement opérer par la charité que dans la mesure où nous sommes dans l'ordre. Et lorsque l'on est dans l'ordre, c'est le niveau zéro. Voyez, parce que saint Paul nous dit avec humilité et douceur, en toute humilité et douceur, avec patience. C'est une chose que d'être dans l'ordre, et c'est une autre que de persévérer dans l'ordre. Bon, maintenant, je ne m'occupe plus des choses qui ne relèvent pas de mon devoir. Oui, c'est très bien. Maintenant, il va falloir persévérer avec humilité et douceur dans ce qui me regarde. Je suis un père de famille. J'ai arrêté de faire l'évêque ou le prêtre, de faire le militant. Je vais me concentrer sur ma dignité, sur mon devoir. Mais je vais devoir être un bon père de famille en toute humilité, en toute douceur, avec patience. Vous voyez, tout est toujours difficile. Souvent, on s'imagine que l'on doit faire, lorsqu'on est militant, on doit faire des choses un peu extraordinaires qui sortent de notre devoir, de notre quotidien, parce que sinon les choses sont trop faciles et on ne se sanctifie pas assez bien. Mais qu'est-ce qui est plus facile? Faire par orgueil un site où on inonde le monde de la bonne parole et de ses prédications, ou ne pas faire cela et s'occuper de sa femme, aimer sa femme comme le Christ aime l'Église, et éduquer bien ses enfants? Eh bien, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus facile de pontifier à la face de l'Internet que d'aimer sa femme et d'élever ses enfants pour en faire, sinon des saints, du moins des gens normaux, et des gens qui persévéreront, avec l'aide de la grâce de Dieu, dans la vraie religion. Combien de gens combien de militants donnent l'impression d'être des sortes de pères qui fécondent l'univers par leurs bonnes paroles, par leurs livres, etc., dont tous les enfants sont sur la voie de l'enfer, dont les femmes sont de pauvres créatures frustrées, complètement desséchées, sans amour, tout simplement parce que leur mari est constamment dans des conférences, constamment sur son blog, constamment dans des polémiques, constamment... Vous voyez, est-ce que c'est ça la facilité? Est-ce que c'est ça la vraie difficulté que le bon Dieu nous demande? Il nous demande d'être selon l'ordre, et quand on est ordonné, ce qui est, je le répète, encore la moindre des choses, il faut faire les choses avec humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Une simple civilité, mes très chers frères, et c'est déjà pas mal, parce que beaucoup qui s'imaginent super chrétiens ne sont même pas polis comme un gros païen pourrait l'être, donc il faut, ça ce sont déjà quelque chose qu'il faut dire, mais la simple civilité ne suffit pas, parce que normalement, quand on est poli, quand on est bien élevé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais disons, quand on est bien élevé, on a une certaine décence vis-à-vis de son prochain. C'est déjà bien. Et beaucoup ne l'ont pas, qui se disent chrétiens. Mais c'est déjà bien, mais malheureusement, à l'aune de la charité, ce n'est pas assez. Il ne faut pas simplement supporter son prochain d'une façon toute hypocrite, disons. Il faut véritablement être animé par un désir de paix. Supporter son prochain, ce n'est pas simplement le supporter comme un païen peut le supporter, c'est se faire son support, devenir le support des faibles. Celui qui supporte dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui porte, voyez, tout en confessant à Dieu notre propre faiblesse. Et c'est pour cela que dans le verset de l'Alléluia, il est dit « Seigneur, écoutez ma prière et que mon cri arrive jusqu'à vous. Si mon prochain est insupportable, et moi, qu'est-ce que je suis ?» Voyez, vous allez dire « Moi, je fais des efforts et mon prochain est insupportable. » S'il vous semble que votre prochain est insupportable et qu'il mérite quelques coups de pied au derrière, traduisez de correction fraternelle, etc., c'est-à-dire des coups de pied au derrière, en réalité, ça veut dire que moi-même, je suis probablement extrêmement insupportable. Alors vous allez dire, pourquoi est-ce que vous dites ça? Comment est-ce que vous le savez? Le saint aide celui qui est insupportable, en devenant le support des faibles. Il ne va pas se plaindre dans le dos de quelqu'un que son frère est insupportable. Donc si je me plains de mon frère, c'est que je suis très loin d'être parfait. Donc mon imperfection est probablement sensible à mes frères. Je ne supporte pas mes frères qui sont insupportables, et probablement qu'ils ont le même problème avec moi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont insupportables. Donc voyez mes très chers frères, il faut être le support des faibles, tout en confessant sa propre faiblesse à Dieu. C'est le seul moyen de se rendre aimable à ses frères selon Dieu. Alors évidemment, il y a une objection qui consiste à dire « Oui, mais tout ceci est très difficile. » C'est très difficile. Et puis des fois, nous l'avons dit, il faut faire la correction fraternelle. Et puis parfois, il faut... Et puis on s'aperçoit que nous vivons des temps très difficiles. On ne sait pas qui est frère, qui est faux frère. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, mes très chers frères, je renonce à tout ce que j'ai dit. Et je vous dis, vous avez tellement raison que, en fait, c'est suffisant pour avoir une dispense d'amour fraternel. Vous êtes dispensé d'aimer vos frères. Totalement dispensé. Et je vous propose même de reformuler l'évangile. Quel est le plus grand commandement de la loi? Notre Seigneur répondit, « Dans la mesure du possible, où il est supportable, tu aimeras ton prochain. Et dans la mesure où Dieu nous renvoie l'ascenseur après tout ce que nous faisons pour lui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Êtes-vous d'accord, mes très chers frères? Je peux terminer le sermon là. Hein. Alors vous voyez, mes très chers frères, que quand le vieil homme est le vieil homme quand même d'un chrétien, et quand le chrétien va totalement dans son sens, ou quand l'Église, par ma bouche par exemple, va totalement dans son sens, il y a quelque chose en nous qui se révolte, il y a quelque chose en nous qui rougit. Et c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est en nous. Et on dit, mais non, c'est vrai, je me plains que mes frères sont insupportables, je me plains qu'aujourd'hui on ne peut pas pratiquer la charité. Mais en même temps, si on me disait, vous êtes dispensé de la charité, je comprendrais bien, je subodorerais bien que quelque chose ne va pas et que ce discours n'est pas le discours de l'Église. Donc mes très chers frères, quelle que soit la difficulté, il nous faut aimer nos frères et c'est la seule façon de vérifier que le Dieu que nous aimons n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire notre orgueil, notre concupiscence, mais est véritablement le Seigneur, l'Éternel, le Dominus Sabaoth. Vous voyez, le vrai Dieu, objectivement, qui est le Créateur du ciel et de la terre. Comment aimer son frère? Comment s'organiser pour pratiquer la charité fraternelle? N'allez pas chercher très loin, mes très chers frères, tout est contenu dans la messe d'aujourd'hui. Regardez l'offertoire, qui est un offertoire tiré du prophète Daniel. « Je priais mon Dieu, moi Daniel, et je lui dis, écoutez Seigneur les prières de votre serviteur. Faites briller votre face sur votre sanctuaire et regardez avec bienveillance ce peuple sur lequel votre nom Seigneur a été invoqué. » Il y a la marche à suivre de ce que nous devons faire pour organiser notre amour fraternel. Organiser, c'est-à-dire le rendre pérenne. La dignité du chrétien consiste dans l'intercession pour les frères. Nous en avons déjà parlé, j'espère que vous vous en souvenez, mes très chers frères. La dignité du chrétien consiste dans l'intercession pour ses frères. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est fondamental. Pour le peuple de Dieu. Prier pour l'Église, non pas comme pour notre victoire personnelle, mais pour la réalisation de la volonté divine. Beaucoup de gens ont de grandes ambitions aujourd'hui pour l'Église. Mais c'est un petit peu comme les royalistes, vous savez, et nous en sommes, alors nous critiquons la famille, mais un peu les royalistes qui disent « je suis pour le roi, et quand le roi reviendra, ben, je serai probablement Premier ministre, ou je serai probablement quelqu'un de bien à la cour, parce, bien vu, parce que j'aurai milité pour le roi ». Pensez-vous que ça marche comme ça, mes très chers frères? Pensez-vous que pour l'Église, ça soit la même chose? Il faut que l'Église redevienne en ordre, il faut que l'Église ceci ou cela, et on me rendra à la gloire d'y avoir participé, mes très chers frères. Mes très chers frères, je vous en supplie, c'est la concupiscence qui nous fait parler ainsi. Je priais mon Dieu, moi Daniel. Je priais mon Dieu, moi le chrétien. C'est un devoir individuel de chaque chrétien de parler à Dieu, de lui prier, de le prier. Et je lui dis, écoutez Seigneur les prières de votre serviteur. Très rapidement, ça signifie Seigneur, écoutez-moi, non pas moi, mais le Christ qui prie en moi, non pas moi, mais le Saint-Esprit qui intercède en moi. Faites briller votre face sur votre sanctuaire, bénissez votre Église, fortifiez-la, conformez-la à votre volonté, rendez-la elle-même. Voyez, faites briller votre face sur votre sanctuaire et regardez avec bienveillance ce peuple sur lequel votre nom, Seigneur, a été invoqué. Bénissez tous mes frères, bénissez tous les évêques, bénissez tous les prêtres, bénissez tous les ordres dans l'Église, bénissez les laïcs, Seigneur. Voilà la prière que nous devons, faire monter vers Dieu. Il n'est pas dit, moi, un tel, je conscient des carences des prêtres et des évêques, et pour la fortification de l'Église, je fondais un blog et je diffusais des textes inédits du magistère. Non, non, ou alors je lis mal, mais je ne pense pas que ça soit dans l'original en tout cas. Moi, je priais mon Dieu, moi Daniel, et je lui dis, écoutez Seigneur les prières de votre serviteur, faites briller votre face sur votre sanctuaire, regardez avec bienveillance ce peuple sur lequel votre nom Seigneur a été invoqué. Alors, évidemment, j'entends déjà la réflexion, oui, mais alors ça veut dire qu'il ne faut rien faire. En effet, mes très chers frères, priez le Seigneur Dieu des armées, pratiquez la mortification dans le silence pour l'Église, intercédez pour l'Église, intercédez pour chaque chrétien en particulier, demandez à Dieu qu'il fasse briller sa face sur son sanctuaire, c'est ne rien faire, évidemment. On est beaucoup plus utile à Dieu lorsque l'on asticote son prochain sur l'Internet en susurrant qu'il est hérétique. Ah, ça c'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, en effet. C'est une question de point de vue, en réalité. Vous voyez, mes très chers frères, il n'y a rien d'autre à faire que de prier, chacun dans notre état, et sachant que certains états ont pour mission, justement, d'édifier l'Église, de la construire, d'en réparer les brèches, en tout cas les brèches de Jérusalem, la muraille de Jérusalem, etc. Rien ne sert de militer, mes très chers frères, il faut prier, et cette prière doit avoir lieu, évidemment, vous allez dire, je suis militant et je prie, oui. Il faut que cette prière soit la prière de quelqu'un qui vit conformément à sa dignité, c'est-à-dire conformément à la vocation particulière que Dieu lui a adressée, sans en sortir jamais. L'agressivité, mes très chers frères, est la caractéristique du défaut de charité. Oh là, le libéral. Non, mes très chers frères. L'agressivité est la caractéristique du défaut de charité. On aime Dieu parce qu'on s'identifie à lui. Alors qu'il faudrait s'aimer soi-même en considérant Dieu comme plus nous-mêmes que nous-mêmes. Le triomphe de Dieu, du Dieu que nous défendons, est le prétexte de notre glorification, de notre exaltation. Je pense que nous l'avons assez dit aujourd'hui. Il nous faut nous cantonner à notre dignité, et c'est déjà beaucoup. Le monde, mes très chers frères, nous conteste notre dignité. La dignité d'une mère de famille chrétienne est contestée par la société, par les lois. La dignité du père de famille chrétien est contestée par la société, par les lois iniques du monde. La dignité d'un évêque, elle n'est même pas reconnue. La dignité d'un prêtre, encore moins. Et la dignité du chrétien, vous voyez, dans tout cela, qui nous est commune à tous, est quelque chose qui non seulement nous est contesté par le monde, mais si ce n'était que ça, mais elle nous est contestée par nous-mêmes, dans la mesure où nous faisons n'importe quoi, et où chacun se mêle de faire le devoir de l'autre. L'humilité seule, mes très chers frères, qui nous fait rentrer humblement dans notre rôle, et qui est récompensée par la dignité. Celui qui est vraiment humble jouit du maximum de sa dignité. L'humilité seule, mes très chers frères, peut nous faire nous efforcer, pour parler les paroles de saint Paul, nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés par votre vocation, à une seule espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême. Il n'y a qu'un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et demeure en nous tous, béni soit-il dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.